Bonjour et bienvenue dans les Arts du Fleu numéro 12. Arts du Fleu, c'est le podcast qui associe théorie et pratique de classe dans l'enseignement du français langue étrangère. Alors au sommaire de ce numéro 12 des actus, un comparatif des offres pour tableaux numériques des éditions Didier, Hachette et Clé International qui sera fait avec Fred du blog Agito. Une présentation de l'offre pour tableaux numériques faite par Philippe Liria des éditions de la Maison des Langues. Et pour finir, la rubrique fourre-tout. Et on passe tout de suite aux actus. Et on commence ces actus avec ExpoLang. Alors ExpoLang, c'est la 32e édition, c'est un salon dédié à l'enseignement et apprentissage des langues. Vous aurez bien sûr plein d'éditeurs, d'événements, de conférences organisées du 5 au 8 février 2014 à Paris Expo, Porte de Versailles, le pavillon 4.1. Alors moi, je ne serai pas à ExpoLang. En revanche, si vous voulez, vous pouvez devenir reporter pour les Arts du Fleu. Je vous invite donc à vous balader avec un petit dictaphone, un téléphone avec un micro, peu importe. Et puis, dès que vous trouvez quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à enregistrer une petite présentation, à faire une interview avec un éditeur, un directeur de collection, un délégué commercial, un conférencier. Je sais qu'il y a déjà 3 personnes qui vont se lancer dans l'aventure. Vous aussi, n'hésitez pas donc à faire un petit reportage ou une petite interview sur ce que vous avez retenu d'ExpoLang. Et puis, on la diffusera dans un numéro spécial. Alors un autre événement qui aura lieu aussi à Paris, c'est le iLearning Forum. Donc c'est un forum qui se déroule du 11 au 12 février à l'espace Champéret, donc à Paris dans le hall A. C'est un salon gratuit lui aussi et qui sera complètement consacré au e-learning, mais aussi à toutes ses variantes, hein, tutoring, blended learning, serious game, content development, mobile learning, e-learning project management, rapid learning et des études de cas. Donc il y a tout un tas d'exposants et de conférences, et notamment le mardi 11 février, il y aura une journée consacrée à l'enseignement des langues. Alors moi je serai à ce forum et j'essaierai moi aussi de me balader avec mon micro et de vous enregistrer quelques entretiens, quelques présentations de produits qui pourront vous intéresser pour là aussi les diffuser dans un numéro spécial. Et on part maintenant au Costa Rica avec le 16e CEDIFRAL, le congrès régional de la Commission pour l'Amérique latine et la Caraïbe de la Fédération internationale des professeurs de français qui aura lieu à Heredia du 3 au 7 février. Alors ce congrès s'intitule Le français naturellement, il y a 2 volets, un volet culturel avec des spectacles de danse, des concerts, des pièces de théâtre, un flash mob de l'Alliance française, etc. Et un deuxième volet scientifique avec vraiment un spectre très large. Je pense que tout le monde peut trouver son bonheur puisque vous pourrez aussi bien trouver des choses sur la formation, l'auto-formation des professeurs que d'autres communications, ateliers sur les pratiques de classe, l'enseignement, l'apprentissage. Donc il y aura des ateliers et des communications, des ateliers qui seront menés par exemple par Hachette ou par RFI TV5. Et je vous invite vraiment à aller voir là-bas, d'autant plus qu'il y aura Céline de Tencentu, Céline qui est intervenue sur les plateformes, qui sera présente là-bas pour une communication. Alors en marge de ce congrès, il y a aussi un concours FLE-FLS pour les professeurs de français d'Amérique latine. Donc on demandera aux professeurs d'organiser un voyage virtuel en France, avec des activités pédagogiques bien sûr. Donc, il y a un modèle de fiche pédagogique qui est disponible. Il va y avoir, à partir du 4 février, une boîte à outils TIS qui sera là pour aider les enseignants à concevoir leurs activités. Et puis, un site qui sera là pour guider les enseignants. Alors, ce concours, eh bien, vous pouvez gagner pas mal de choses, notamment un stage de 15 jours à l'Alliance française de Paris, Île-de-France, hébergement et billets d'avion compris, des abonnements à la revue Français dans le Monde, c'est toujours bien, et une visite des studios RFI et TV5 Monde. Je pense que c'est un concours vraiment très intéressant, c'est l'occasion aussi de se lancer dans les TIS parce que là vous aurez donc plein d'outils pour vous aider à créer vos activités et donc vous n'aurez pas à vous casser la tête à chercher des outils pour pouvoir faire quelque chose en ligne, tout sera à votre disposition et vous devrez laisser libre cours à votre créativité, donc que le meilleur gagne, mais j'encourage vraiment les profs d'Amérique latine à participer à ce concours et j'espère à gagner un stage de 15 jours à l'Alliance française de Paris, Île-de-France. On retourne à Paris, en marge d'ExpoLang, il y a la librairie Attica qui va organiser l'Agora des langues. Donc c'est du 5 au 8 février aussi. Et là, ce sera un salon annuel pour les professionnels de l'enseignement des langues. Et donc un espace plus petit et qui favorisera probablement les échanges que vous pourrez avoir en tant que professeur avec des éditeurs pour plein de langues. Donc il y aura vraiment un concentré de l'actualité éditoriale avec des éditeurs internationaux et des stands évidemment, des échanges entre professionnels des langues venus de toute la France, des conseils en continu de la part des libraires spécialistes et puis un tableau numérique interactif à disposition des professeurs pour des démonstrations des produits numériques. Alors justement, il y aura aussi des conférences et des débats sur le thème « Le matériel numérique à usage pédagogique en classe de langue ». Donc ça doit être un événement qui est pas mal aussi, un peu plus convivial, peut-être avec plus de temps, c'est un peu moins l'usine qu'ExpoLang, qui est quand même le gros événement. Là, si vous avez des questions précises, je pense que les stands, les gens qui s'occupent des stands auront un peu plus de temps à vous consacrer. Donc c'est à voir aussi, hein, parce que du 5 au 8 février, vous aurez sans doute le temps de faire les deux événements. Et on va terminer cette rubrique actu avec le CIEP, les formations du CIEP, donc c'est l'université d'hiver BELC 2014, les métiers du français dans le monde. Ça, c'est à Sèvres du 17 au 28 février. Là aussi, il y a deux formules, la formule A et la formule B. C'est 30 heures de formation par module, avec 20 stagiaires au maximum, donc il faut se dépêcher un petit peu. Et vous pourrez bien sûr avoir tout un tas de formations sur organiser un cours, concevoir du matériel pédagogique, concevoir des dispositifs de formation, enseigner le français à des adultes migrants, tutorer dans le dispositif ProFLE habilitation de tuteur. Vous pourrez aussi former des examinateurs correcteurs DELF-DALF. Ça, c'est un plus qui est toujours demandé, qui est de plus en plus demandé maintenant dans les offres d'emploi. Et puis dans la formule B, il y aura piloter et animer des activités en français langue étrangère, enseigner le français sur objectif spécifique avec une méthodologie du FOSS, développer une démarche qualité dans un centre de langue, enseigner le français langue de scolarisation en France et à l'étranger, intégrer les TIS dans l'enseignement du FLE, ressources et projets, et puis aussi devenir examinateur correcteur DELF-DALF. Alors les tarifs de ces formations, donc formule A ou B, si vous vous inscrivez dans un module, c'est 408 €, et si vous vous inscrivez dans deux modules, c'est 775 €. Sachez aussi que le CIEP propose des options d'hébergement et de restauration à différents prix. Voilà, c'est terminé pour cette rubrique Actu. Vous retrouverez bien sûr tous les liens des événements cités dans les notes de l'émission et sur le blog artdufle.net. Et on va passer maintenant au comparatif des offres de tableaux numériques avec Fred du blog Agito. Alors pour ce comparatif des offres pour tableaux numériques des éditeurs, alors Clé International, Didier et Hachette, j'ai malheureusement pas pu avoir accès aux éditions de la Maison des Langues, mais on aura Philippe qui viendra expliquer ce que ces éditions proposent. Donc pour ce comparatif, je reçois avec grand plaisir Frédéric du blog Agito. Alors Frédéric est enseignant de FLE, bidouilleur informatique et passionné par les nouvelles technologies, puisque tu as déjà participé à des MOOC, tu t'intéresses à plein d'outils, et ton blog Agito présente aussi pas mal d'outils d'utilisation numérique. Donc bonjour Frédéric.
Bonjour Sébastien, merci de me recevoir.
Ouais, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors ensemble, on a regardé les offres numériques donc pour Tableau, hein, de Didier, d'Hachette et de Clé International, et on va essayer de voir ensemble ce qui nous a semblé intéressant et ce qui nous a semblé moins intéressant aussi. Alors on va peut-être commencer tous les deux par quand on a ces solutions pour Tableau numérique, comment on les installe, comment on les utilise.
Alors en général, il y a une inscription via les sites web. Tu en as un petit peu parlé dans l'introduction. Il faut préciser qu'il y a, pour certaines de ces offres, on a pu accéder qu'à des offres promotionnelles, donc qui étaient un petit peu limitées. J'imagine tout de même que l'installation se passera toujours dans ces conditions. On a pour les trois offres un accès via navigateur. Donc c'est une inscription assez classique où vous devez créer un compte, préciser votre adresse email. On vous envoie un mot de passe généralement par mail et une fois que vous êtes inscrit, vous aurez accès à vos manuels et l'environnement numérique.
Ouais, et en général, donc on peut le lancer soit via le navigateur, soit via une clé, donc pas d'installation nécessaire, sauf pour Didier. Moi, j'ai noté que là, j'avais dû installer des choses sur l'ordinateur pour pouvoir utiliser le manuel. Sinon, pour Hachette, ça se lance directement depuis le dossier. Ah, pour Hachette, on a eu un petit problème tous les deux parce qu'on a testé deux manuels différents avec deux environnements différents, hein, c'est ça?
Totalement, oui. Moi, je m'étais orienté sur Agenda 1, vu que je l'utilise en cours en ce moment. Et j'ai dû installer, pour le coup, il n'y avait pas du tout d'accès à partir du navigateur, et j'ai dû installer un logiciel qui me permettait d'accéder au manuel. Assez délicat comme installation, il faut le dire.
Ouais, je pense que moi j'ai essayé Alter Ego Plus et donc j'avais une autre interface et il précise justement dans différentes fonctions que c'est le manuel numérique 2.0. Donc j'imagine que c'est une deuxième version et que peut-être la première version que tu as pu essayer sera abandonnée au profit de la deuxième, quoi.
Petit à petit, ouais. Je pense il y a des chances ils auraient en tout cas tout intérêt à aller dans cette direction.
Alors pour la compatibilité navigateur, donc moi j'utilise principalement Google Chrome que j'aime beaucoup. J'ai pas eu de difficultés avec d'autres navigateurs. Toi, tu as eu des problèmes d'ouverture?
Personnellement, j'utilise plutôt Firefox. Avec Firefox, il n'y a eu aucun problème. J'avais fait des tests sur Chrome aussi, ça allait. Safari, par contre, avait des problèmes visiblement quand même un peu pour charger jusqu'au bout. Le chargement ne se faisait pas toujours complètement. Sinon, j'ai pas testé Internet Explorer.
Ah, même chose, j'avais une version d'Internet Explorer beaucoup trop ancienne sur l'ordinateur et donc ça pouvait pas fonctionner. Et toi, tu as fait l'essai en plus depuis un iPad, hein, c'est ça?
Oui, j'ai fait l'essai depuis un iPad. Alors, c'est un vieux modèle d'iPad. Je pense que ça doit être en deuxième génération. Et comme c'est du flash, ça ne passe pas.
Ouais, et
ça ne passait pas.
Ce modèle d'iPad, il est avec la dernière version d'iOS ou tu n'as pas trop fait attention à ça, ouais.
C'est, non, non, si, si. L'iPad en lui-même est assez vieux, mais c'est le dernier iOS qui est installé et ça ne marchait pas quand même.
Mmh. Ouais, donc il y a de grandes chances que même avec un modèle récent, on risque d'avoir des petits problèmes d'ouverture sur iPad, mais c'est pas trop l'objectif non plus, hein.
Non, non, on est d'accord. Je pense que c'est plus sur des postes fixes ou des ordinateurs portables reliés à un projecteur ou à un TBI.
Sur les systèmes d'exploitation, c'est principalement Windows et puis macOS. Et rien pour Linux, si ce n'est de devoir passer par le navigateur.
Totalement. Mais avec l'accès via le navigateur, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème.
Ouais, on en reparlera un petit peu parce qu'il y a des petites différences justement entre les versions sur ordinateur et en ligne. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard parce qu'il y a certaines limitations. Peut-être qu'on en parlera au moment des ressources. Et justement, ces ressources, donc quand on ouvre un manuel numérique pour Tableau, on se retrouve avec la couverture du manuel. Et là, en fonction des éditeurs, ça change pas mal. Moi, chez Didier, j'ai noté que j'avais accès au manuel de cours, donc le livre de l'élève, et une possibilité aussi de lire le guide pédagogique et rien d'autre. Chez les autres éditeurs, t'as vu d'autres choses, toi, hein?
Chez Hachette, donc j'avais pas exactement la même version. Pour la version que j'avais avec Agenda, il n'y avait aussi accès qu'au manuel en fait apprenant, manuel de l'élève. Mais chez Hachette, donc avec Alter Ego Plus, là pour le coup, effectivement, on avait accès au manuel de l'élève, au cahier d'activité et au guide pédagogique, si je ne m'abuse.
Ouais, même chose. Moi, j'ai essayé aussi une méthode pour enfants, les loustiques. Il y avait accès à tous les périphériques. Donc ça, c'était pas mal. Je sais pas pourquoi Didier a séparé comme ça le cahier d'activité de la méthode. Bon, Je sais pas si c'est le cas non plus sur des offres autres que promotionnelles, mais normalement, ils garantissent un accès complet. Donc, je pense que ce qu'on avait sous les yeux chez Didier est ce qu'on retrouve sur une clé ou sur l'offre téléchargeable.
Pour clé internationale, tu avais vu si on avait. J'ai l'impression qu'on a accès qu'au manuel de l'élève aussi.
Ouais, alors sur la version d'essai, c'est le cas, et dans les notes sur leur site, ils précisent que toutes les ressources sont disponibles. Donc, enfin, ouais, ils nous disent simplement que on a accès à toutes les ressources médias. Donc après, de là à dire si on a accès aux livres d'activité, je suis incapable de le dire. Sur la version d'essai, en tout cas, qui passe par le navigateur, j'ai rien vu de tout ça. Hein. À voir plus tard avec une vraie version. Si un jour on m'enfile une, je regarderai ça avec plus d'attention. Si on continue sur les ressources, alors on peut ouvrir n'importe quel manuel. Et là, ça se présente exactement comme le format papier avec quelques petites différences. On peut interagir un minimum avec ce manuel, hein.
Totalement, oui. Chez les trois éditeurs, c'est assez similaire, je dirais. Il y a ce qu'on appelle des zones, alors certains appellent ça des zones actives, c'est-à-dire des zones qu'on peut cliquer pour avoir, par exemple, directement accès à un document audio enregistré, pour avoir accès chez certains éditeurs, pas chez tous, à certaines photos, en fait, du manuel qu'on peut, du coup, avoir en grand écran. Ou qui permettent parfois d'accéder à certaines activités supplémentaires.
Ouais, avec quand même une petite critique parfois sur ces manuels. Et là, pour le coup, ça se retrouve assez souvent. Mais l'exemple du sommaire, par exemple, quand on regarde le sommaire d'un manuel, bon, moi, je pensais qu'en cliquant sur l'unité que je voulais, j'arriverais directement dessus. Bon, ben non, il faut naviguer page après page pour pouvoir arriver là où on veut arriver, ce qui est un peu dommage, je trouve.
Oui, c'est assez dommage. Il y a un sommaire à côté de ça. Il y a souvent une liste qui fait partie de l'interface, mais qui est en dehors du manuel. C'est un peu dommage, effectivement, de garder la présentation papier du manuel, d'avoir le sommaire et de ne pas pouvoir cliquer sur les différents éléments pour se déplacer de page en page. Je suis complètement d'accord.
Ouais, et puis on se retrouve aussi souvent avec des doublons d'icônes, c'est-à-dire qu'on a les icônes, par exemple, pour écouter un document qui sont sur la version papier. Et on se retrouve avec une autre icône différente pour pouvoir activer le fichier aussi. J'ai noté ça sur certains manuels. Je sais pas si tu as vu ces genres de double icônes comme ça.
Au niveau, non, j'ai pas remarqué. J'ai remarqué que sur certains manuels, effectivement, il y avait beaucoup beaucoup d'icônes, donc c'était pas toujours évident de s'y retrouver. Je crois par contre que chez Clé International, lorsqu'il y a plusieurs, en fait, lorsqu'il y a plusieurs fichiers rattachés à un élément, à un exercice, par exemple, parfois on peut avoir donc comme je disais, l'image de l'exercice, le document audio et le corrigé. En fait, il n'y a qu'un seul icône et quand on clique dessus, on a accès à un petit menu, ce qu'on appelle un menu contextuel, c'est-à-dire il y a un petit menu qui ressort et on peut choisir, par exemple, d'accéder donc au document audio ou au corrigé.
Donc, ouais, ce que je disais sur le doublon des icônes, donc par exemple sur Alter Ego Plus, donc je vois par exemple une partie phonétique avec le numéro 6, etc. Et j'ai là trois icônes pour cliquables pour lancer le fichier. Et c'est un peu la même chose à chaque fois qu'il y a de l'écoute. Donc si on regarde, moi j'avais regardé l'unité C'est ma ville, donc les pages 44-45. Si on regarde sur la page 45, l'activité 4. Donc j'ai mon 4, j'ai un petit symbole avec une oreille pour montrer que je vais pouvoir écouter, et hop, on me rajoute une icône cliquable qui va lancer le fichier d'écoute, quoi. Du coup, ça surcharge un peu le manuel, d'autant plus que parfois ces icônes sont placées de manière un tout petit peu malheureuse. Là, par exemple, toujours sur cette page 45, l'aide mémoire, il y a une petite image qui peut s'afficher si je clique dessus. Elle cache une partie du texte de l'aide mémoire, donc c'est un petit peu dommage d'avoir ça, mais En même temps, ce qui est pas mal, c'est que du coup, tu peux accéder directement au texte et l'afficher en plus grand, donc c'est pas très très grave. Mais n'empêche que j'aurais bien aimé moi avoir quelque chose d'un peu plus propre, que ce soit directement intégré aux icônes du manuel plutôt que de me rajouter encore une icône dessus, même si je suis
Oh.
conscient que ça la rend plus visible, hein.
Ouais, totalement, c'est ce que j'allais dire en fait. Tu as bien résumé. Je pense qu'ils ont mis ces grosses icônes parce que quand on a en fait une double page sous les yeux, même quand c'est à l'écran, c'est pas forcément évident de savoir où sont ces fameuses zones actives. Donc ils ont dû viser des icônes un peu importantes pour qu'on puisse ne pas les louper. Mais effectivement, ça cache une partie du texte bien souvent. Et comme tu le précises, tous les manuels maintenant utilisent généralement des icônes pour l'écoute, la lecture, etc. Donc pourquoi ne pas avoir récupéré tout simplement ces icônes qui sont présentes pour chaque exercice? Éventuellement une amélioration si on nous écoute.
Ouais. Bah oui, parce que là, ça fait un peu portage du PDF avec une surcouche par-dessus pour l'adapter un peu au tableau numérique, hein.
Oui, tout à fait. C'est la même chose hein. Chez les trois éditeurs. On a vraiment l'impression, ce mot de surcouche est vraiment adapté, je trouve. On a un manuel au format PDF et on a rajouté des fonctions dessus au lieu de créer peut-être de nouveaux contenus ou de créer un contenu qui soit vraiment dédié et qui exploite pleinement l'outil.
Alors, avec ce manuel et toutes les ressources, enfin ces manuels et toutes les ressources qui sont présentées, avant c'était à peu près tout ce qu'on avait. Donc on avait comme ça le livre qui était projeté au tableau avec des petits outils de présentation sur lesquels on reviendra un petit peu tout à l'heure. Et on pouvait absolument rien faire d'autre. Et là, maintenant, avec j'ai envie de dire, cette deuxième génération un petit peu de manuels pour tableau numérique, on a la possibilité quand même de réagencer, de modifier un petit peu le manuel ou de le projeter dans sa version telle qu'il est devant les élèves, hein. Tu as vu un petit peu ces options de réagencement des ressources?
Oui, j'ai regardé ça effectivement parce que c'est une des valeurs ajoutées, je pense, de ces versions. Pour que pour que les éditeurs comprennent bien, en fait, ça permet de constituer, on va dire, un diaporama qui permet de reprendre certaines des ressources du manuel, donc des documents audio, des photos, ou également aussi des captures d'écran qu'on peut faire à l'intérieur du logiciel et qu'on peut récupérer dans le diaporama. On peut y ajouter souvent, alors on va en parler bien après, mais on a essayé de faire des tests, parfois ça n'a pas été possible, ses propres ressources, et donc ça permet, comme tu l'as bien précisé, de présenter, on va dire, le cours dans l'ordre dans lequel on est le plus à l'aise, je dirais, on a envie de présenter, de faire sa leçon.
Ouais, puis s'il y a un exercice qui ne nous plaît pas trop, si on préfère une autre explication grammaticale, du coup on peut supprimer facilement celle qui est dans le manuel pour essayer de réaménager ça et d'avoir quelque chose d'assez présentable. Alors tout ça en général se retrouve dans une option qui s'appelle espace personnel ou mes cours ou quelque chose comme ça. Et on peut donc créer, comme tu le disais, des diaporamas en utilisant les ressources du manuel. Et là, il y a différentes options, hein. Chez Hachette, c'est vraiment une page blanche. Et puis, à nous de nous débrouiller pour essayer de rendre ça un petit peu joli en plaçant un peu les images qu'on veut, le son, un peu où on le veut sur la page. Et puis, on crée comme ça plusieurs diapositives du diaporama. Chez Didier, tu avais noté d'autres choses?
Alors, chez Didier, un diaporama aussi, mais avec une fonction assez sympa, c'est-à-dire qu'un peu comme sur un LibreOffice ou chez la suite Office de Microsoft, quand vous créez un PowerPoint ou une présentation, vous avez en fait ce qu'on appelle des modèles, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi parfois des templates en anglais, donc des modèles de présentation, où vous avez directement une structure pour vos diapositives, par exemple le texte à gauche avec deux photos superposées sur la droite, ce qui est assez pratique pour faire directement des présentations qui ont une certaine, on va dire, un certain design qui soit agréable à l'œil.
Et chez Clé International, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu tester, puisque dans la version d'évaluation qu'ils proposent sur leur site internet, ça envoie plutôt à des vidéos de présentation des fonctions, et donc on n'a pas pu vraiment tester comment ça fonctionnait, hein. Mais
Non.
visiblement, même chose, on peut créer ses propres diapositives de cours, et puis les projeter à la place du manuel.
C'est ça, oui. La vidéo a l'air de. Ça semble montrer de bonnes possibilités. Mais c'est vrai que tant qu'on a, on ne peut pas, vu qu'on ne peut pas tester, on ne pourra pas bien comparer avec ce qui se fait chez les autres.
Ouais, d'ailleurs, chez Clé International, il y a comme ça une bonne vingtaine de vidéos à regarder, hein, pour toutes les fonctions des offres numériques qu'ils proposent. Alors, tu parlais justement tout à l'heure d'ajouter des ressources. Ça, c'est ce qu'on a essayé de faire avec plus ou moins de
De
succès.
succès.
Ouais. Et c'est là où il commence à y avoir des différences avec la version qui s'installe sur l'ordinateur, celle des clés USB ou celles qui sont directement en ligne. Tu avais essayé avec qui, toi?
Alors, j'avais essayé avec Didier sur le manuel, donc qu'il soit directement en ligne au niveau du navigateur, hein. Et dans ces cas-là, la première limite importante, c'est qu'on a un espace limité pour stocker ces fichiers. C'est une limite à 10 mégas, ce qui n'est pas énorme, énorme. Quand, si vous mettez simplement des fichiers texte, ça va aller, mais ne serait-ce que même un PDF avec quelques photos un petit peu importantes dedans, au bout de quelques cours, voire même d'un cours, vous pouvez très facilement arriver à la limite, hein.
Ouais. Et d'ailleurs, on peut mettre des formats Word et tout ça, il n'y a pas de problème sur cette version en ligne.
Moi, je n'utilise pas Word, donc j'ai un problème avec LibreOffice, le format donc ODT qui est le même qu'OpenOffice. Ils ont du mal à le reconnaître, effectivement. Donc, on est un petit peu limité au niveau des formats. Hein.
D'accord. Sur la version en clé ou directement sur l'ordinateur, là, pas de limite, ni de format, ni de taille, si ce n'est la taille physique de votre disque dur ou de votre clé USB. Et puis, bien sûr, les logiciels pour la lecture des fichiers qui sont disponibles sur l'ordinateur que vous utilisez. Si vous utilisez une vidéo et que effectivement sur votre ordinateur il n'y a pas le logiciel qui vous permet de lire cette vidéo, vous ne pourrez pas la lancer. Le logiciel de présentation de Didier ne va pas prendre en charge la lecture vidéo, mais va toujours faire appel à un logiciel externe pour lire cette vidéo. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, surtout si vous êtes sur des ordinateurs que vous ne connaissez pas dans les salles de cours, de bien vérifier que tout soit présent pour que votre cours se déroule bien, au moins techniquement. Après, pour l'animation, vous vous débrouillez, hein, mais c'est vrai qu'un pépin technique pendant un cours, c'est toujours gênant, quoi.
Ouais, non, faut vraiment toujours tester, ne pas se contenter de ce qu'on a préparé à la maison et toujours retester sur l'ordinateur, effectivement, dans la salle de cours. C'est le test le plus important.
Ouais. Et alors chez Hachette, j'ai presque envie de dire le mauvais élève pour le coup, mais on a été deux à tester et on n'a jamais réussi à ajouter un fichier. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, hein. Quand on était dans le manuel, donc en haut, dans la barre en haut du logiciel de présentation, il y a un petit trombone qui vous permet d'ajouter une ressource. Donc là, vous pouvez ajouter un lien internet ou ajouter un fichier. Donc moi, j'ai ajouté un fichier, j'ai utilisé un PDF. Et alors après, je l'ai plus jamais retrouvé. Donc je suis allé dans l'espace personnel pour créer un cours, j'ai cliqué sur mes ressources et bizarrement, cette ressource est jamais apparue. Je sais pas comment la retrouver.
Est-ce que c'est une limitation là encore pour une quelconque version d'essai ou est-ce qu'il y a un problème? Ce
Ah bah
serait intéressant de le savoir. Hein.
ouais, j'espère que c'est une limitation à la version d'essai parce que c'est quand même gênant d'avoir des options qui servent à rien
Oui.
pour le coup. Donc mais ouais, jamais j'ai réussi à ajouter un fichier. Et chez Clé International, encore une fois, la version d'essai nous permet pas de voir ce qu'il est possible de faire. Alors en plus d'ajouter les ressources, ce qui aurait été sympa, c'est de modifier les ressources du manuel. Mais ça, moi, j'ai jamais trouvé d'option pour modifier le texte d'un manuel, pour changer un exercice en modifiant directement l'exercice. J'ai pas trouvé de possibilité.
Oui, non, tout ce qui est déjà créé dans les manuels, donc on a la possibilité donc de réagencer l'ordre, comme on l'a dit. Mais après, pour tout ce qui est des modifications, en effectivement du texte, on pourrait avoir envie de quand par exemple les apprenants apprennent les nationalités, d'enlever une nationalité et d'en ajouter une autre pour s'adapter ne serait-ce qu'à son contexte pédagogique. Et ce n'est pas possible, hein. Je n'ai pas trouvé moi non plus dans tous les cas, hein.
Non, puis ça va même un petit peu plus loin. Par exemple, tu vois, sur des exercices de phonétique, donc tu as toujours des fichiers audio qui sont dédiés. Si tu souhaites le remplacer, eh bien, tu devras passer par la création de cours et tu pourras pas directement changer la référence du fichier audio sur la présentation du manuel. Ça, c'est pas possible non plus, hein.
Oui, non, absolument pas, non. On est vraiment dans un mode de présentation, hein, comme tu viens de le dire. Donc,
Ouais, donc c'est un petit peu dommage, mais j'aurais bien aimé pouvoir modifier le manuel, puisque bon, là, tant qu'à faire, il est disponible numériquement devant soi, ça aurait été sympa de pouvoir le modifier. Alors passons un petit peu à l'utilisation pédagogique. Alors tu parlais justement de la présentation, et eh ben c'est une bonne occasion de faire les outils, enfin de faire le tour des outils qu'on a à disposition. Pour la présentation pure, moi j'ai noté qu'on pouvait zoomer, on pouvait afficher en une page, deux pages, on pouvait déplacer, on pouvait afficher en plein écran, pas mal de choses.
effectivement, là, l'affichage en plein écran marche bien. Après, on retrouve un petit peu, pour résumer rapidement, pour ceux qui utilisent un TBI, il y en a très certainement parmi les personnes qui nous écoutent, tous les éditeurs proposent une espèce l'espèce de barrette qu'on retrouve dans tous les gros logiciels de TBI, que ce soit chez SmartNordborn ou OpenSangKoré. Donc, effectivement, comme tu le disais, avec texte, zoom, l'ajout de fichiers, l'ajout de cache. Ou de spot, c'est-à-dire montrer simplement une partie du manuel et cacher le reste, la gomme, bien sûr, le surlignage,
Ouais,
etc.
d'ailleurs le cache. Enfin, moi, je me souviens très bien de mon manuel d'anglais quand j'étais au collège, où avec le manuel, on avait un cache, tu sais, et ça
Ouais,
cachait le dialogue
c'est
qui était
vrai.
sous l'image. Bon, bah là, vous pouvez le faire directement sur votre TBI, y a pas de problème. Ça marche pas mal. J'ai noté que chez Clé International, pour les versions de manuels pour enfants, on pouvait aussi faire intervenir une police cursive dans l'ajout de texte, ce qui peut être pas mal pour l'utilisation de l'écriture et tout ça. Parce que sinon, en général, c'est vraiment du texte brut qu'on va ajouter, hein.
Vu que tu mentionnes Clé International et les lettres, en fait, je ne sais pas je sais pas si tu l'as trouvé chez les autres éditeurs, mais chez Clé International, il y a aussi la possibilité d'entrer en alphabet API, en alphabet phonétique international. Il y a les caractères qui sont qui sont directement compris dedans, donc si vous les utilisez, c'est assez pratique.
Ah oui, non, j'ai pas trouvé ça moi chez d'autres éditeurs. À chaque fois dans le texte, j'ai pas trouvé d'alphabet phonétique international. Chaque fois je tape mon texte, ouais, Arial, c'est les polices que j'ai même pas accès à toutes les polices qui sont présentes sur mon ordinateur, tu vois.
Non, ouais,
C'est
malheureusement, non, non, non,
une
non.
certaine quantité de polices, et après bon, il y a souligné, gras, italique, faire un lien. Puis tout ce qui est centré à droite, à gauche, la couleur, et j'ai quelques symboles un petit peu bizarres qui sont accessibles, des symboles mathématiques pour la plupart chez Hachette qui sont disponibles là. Et puis oui, aussi des symboles grecs.
Oui, il y a les. Il y a les mêmes chez Clé International, c'est sûr. Chez Didier, j'en ai pas souvenir, mais j'ai pas regardé en détail par rapport à. Il n'y avait pas d'option en tout cas présente pour les mettre directement. J'imagine que ça doit être possible d'en mettre.
Tu veux dire l'alphabet phonétique international ou
Non, l'alphabet phonétique international, je pense pas, hein, parce que c'est quand même assez spécifique. Et donc là, Clé International a vraiment prévu cette option, ce que j'ai trouvé assez sympa. Là, je parlais plus pour tout ce qui est symboles scientifiques ou mathématiques.
Ah, chez Didier, il n'y a rien de tout ça, hein. Chez Didier, il y a
Bon.
5 polices disponibles, détails, gras, soulignés. Après, aligné à droite, aligné à gauche, ça n'existe pas. Et on peut juste changer la couleur du texte. Et c'est à peu près tout, hein. C'est
D'accord, bon,
l'outil le
c'est pas
plus
que je n'avais pas
limité. Ouais.
trouvé alors.
Ouais. C'est l'outil le plus limité, moi, que j'ai vu sur l'ajout de texte. Bon, après, vous pouvez toujours utiliser, hein, tout ce qui est crayon, flèche, toutes ces choses-là. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que sur un bête exercice d'appariement d'image, par exemple, eh bien souvent on est obligé de mettre des flèches plutôt que de déplacer directement les images. Ou sur des exercices à trous, des petits exercices de grammaire, on va être obligé de créer une zone de texte pour pouvoir compléter les textes au lieu d'avoir directement la zone inclue dans l'exercice. Je sais pas pourquoi ils nous ont pas fait quelque chose de plus interactif ici.
Oui, c'est vrai. Surtout qu'il y a, comme tu le précisais, donc on parlait de ces zones actives. Souvent, quand on clique sur un exercice ou un texte, on a la possibilité de l'avoir en plus grand. Donc ça aurait été intéressant d'utiliser cette fonction pour que non seulement le texte soit en plus grand, mais peut-être soit interactif, tout simplement,
Ouais.
quitte à en changer un petit peu l'apparence par rapport au manuel papier. Mais ça aurait permis de garder le repérage dans l'espace par rapport au manuel papier et d'avoir ce zoom qui apporte l'activité interactive. Hein. Mais on va peut-être d'ailleurs parler un petit peu justement des activités interactives qui sont présentes,
Eh oui, parce
car il y en a
que
quelques-unes.
ouais, voilà, toi tu en as trouvé.
Oui, j'en ai trouvé chez Hachette, donc avec Alter Ego Plus, hein, que je viens de découvrir, donc, parce que comme on l'expliquait, ils ont deux systèmes différents. Je n'ai pas trop eu le temps d'observer vraiment ce qu'il y avait, mais chez Alter Ego Plus, donc, je suis tombé sur une activité un petit peu avec une roue à tourner aléatoire pour travailler les questions avec elle. Et donc cette roue, comme imaginez une roue de la fortune, hein, et on l'a fait tourner, et de manière aléatoire, elle s'arrête sur des cases avec un thème, par exemple nationalité. Donc faites une question avec elle, et le thème de la nationalité, c'est sans être extraordinaire, c'est assez plaisant. Moi j'ai trouvé, j'aurais bien aimé l'utiliser en cours. Et également chez Clé International aussi, dans les ressources, notamment une activité que j'ai trouvée assez sympathique en fait. On a tous les manuels présentent souvent des dialogues, hein, et là ils proposent en fait une option karaoké sur les dialogues. Alors est-ce que c'est du shadowing? Je ne connais pas l'expression française, et certaines utilisent cette technique, hein, qui est le fait donc de passer un document audio, et que les apprenants doivent en fait coller au document audio à la même vitesse,
Comme pour faire une espèce de doublage, quoi.
faire un doublage, voilà, mais en gardant l'audio original en fait. Sauf que là, bien sûr, c'est un peu plus évolué, quoi. Bien sûr, non. Heureusement, c'est un peu plus évolué. Là, l'option karaoké propose même en fait de désactiver toutes les voix, bien sûr, mais également seulement certains personnages. Le dialogue qui est en présentation, il y a trois personnages différents. On a la possibilité, par exemple, si vous avez qu'un seul étudiant, peut-être, ou que vous voulez faire travailler pour un seul personnage, de désactiver ce personnage-là, et les deux autres personnages du livre continueront à parler. Et il faudra que l'apprenant parle au bon moment. C'est assez
Ouais,
sympathique et
ça a
c'est une
l'air
très bonne
sympa.
idée.
Ouais, moi j'aurais bien aimé faire ça. J'avais déjà fait ça dans des activités avec des vidéos d'un gars et une fille justement où il fallait qu'il refasse les dialogues sur la vidéo en coupant le son. Mais là, ça c'est vrai que cette option est assez sympathique quand même, hein. Sur les activités interactives, donc tout à l'heure j'étais un petit peu sévère en disant il n'y a pas d'appariement d'image. J'ai voulu tester des méthodes pour enfants aussi, où là il y a un petit peu plus d'interactivité dans les activités sur les appariements d'image, toutes ces choses-là. Néanmoins, nous on peut pas créer d'activités interactives. Avec Jean, on parlait de tous les petits widgets qui sont disponibles sur les logiciels de TBI, à faire des memories, des mots croisés, des choses comme ça. Ça, on peut pas du tout les créer sur les outils TBI des éditeurs, hein.
Non, 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 non. Même si ce genre d'activité, comme on le disait, existe parfois, il y a une activité d'appariement interactive là aussi chez Clé International, pour le manuel qu'on a testé en tout cas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de récupérer le programme qui a été utilisé pour cet appariement et de remplacer par exemple les textes, de mettre nos propres images pour pouvoir faire nos propres activités, ce qui est un peu dommage.
Ouais, parce que même il n'y a pas de possibilité d'import d'activités de notebook ou de Sancoré, tout ça, ça ne fonctionne pas, quoi.
Non, non, non. Donc on se retrouve avec une interface assez poussée qui reprend énormément d'outils d'un TBI, mais pour ce genre de choses, on serait obligé de repasser, on va dire, à l'interface du TBI en lui-même pour arriver à créer ces exercices.
Ouais, et bien sûr, hors de question d'ouvrir un manuel numérique avec le logiciel TBI qu'on peut avoir. Donc, vous ne pourrez jamais ouvrir un manuel de chez Didier, Clé International ou Hachette dans Sancoré ou dans Note Plus, quoi.
C'est bon, tu fais bien de le préciser.
Ouais, parce que sur les sites, il marque compatibilité avec tous les tableaux numériques, certes, effectivement, vous pourrez toujours projeter votre manuel sur n'importe quel tableau, peu importe la marque, peu importe la taille, mais vous n'aurez pas l'accès aux outils que votre fournisseur de tableaux vous a donné, quoi. Ce sera pas utilisable dedans. Alors, un dernier aspect qui est important aussi, c'est la collaborativité. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'aime bien préparer mes cours avec des collègues, un ou des collègues. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué de se partager les documents, de savoir qui les ouvre, qui travaille dessus. Et là, sur les tableaux numériques, justement, ce qui peut être intéressant, c'est de préparer un cours avec un collègue sans être à deux sur un ordinateur, mais bien chacun de son côté. Tu as noté des possibilités de ce côté-là?
Bah, au niveau, pour qu'on puisse travailler chacun de son côté, au niveau synchronisation, personnellement, moi je n'ai rien vu. Alors chez Didier, on a la possibilité de créer un diaporama et de l'exporter sous un zip. Donc il y a la possibilité de l'envoyer à un collègue, mais il va travailler en fait sur ce que vous avez déjà fait. Ce ne sera pas de la collaboration et on ne pourra pas travailler peut-être en même temps sur un document tel que le genre de collaboration qu'on peut voir par exemple avec tous ces différents outils de création de texte en ligne, par exemple, comme sur Google Drive.
Ouais. Et donc effectivement, là, quand vous exportez en point zip chez Didier, votre collègue va pouvoir ouvrir votre travail et le compléter, le modifier pour vous le renvoyer après. Alors ça fait beaucoup de va-et-vient. Il va pouvoir l'ouvrir grâce au logiciel de Didier. Donc on peut importer le zip et le modifier pour le renvoyer. Donc ça fait un peu de va-et-vient avec ses collègues. Chez Hachette, il y a une option supplémentaire qui est d'exporter en PDF ou en format propriétaire. Et donc là aussi, le prof peut réouvrir et ça fait toujours le même type de va-et-vient. Chez Clé International, j'ai pas pu tester ce genre d'import-export, mais j'ai cru voir dans les vidéos qu'on pouvait exporter en PDF. Après, je sais pas quels autres exports sont permis.
Ouais, non, toujours le même problème que la partie mes cours et n'était qu'en démonstration vidéo, donc.
Ouais. Donc ça, c'était une possibilité quand même de travailler à plusieurs collègues sur un cours, même si c'est pas en même temps. Ça reste quand même une possibilité de se partager les cours et se partager du travail. Tant qu'on est sur la question du partage, justement, pour partager tout ce qu'on a pris, tout ce qu'on a fait comme travail pendant un cours avec un outil TBI et le partager avec les élèves, tu as noté des options chez différents éditeurs?
J'ai envie de dire souvent, c'est pas toujours, mais on va avoir donc un export PDF possible avec notamment la possibilité d'exporter tout ce qui est annotations qui ont été faites sur les documents. Chez Didier notamment, on a l'import et l'export même, donc on peut importer également des annotations de documents est possible. Et chez Clé International, comme d'habitude, c'était plus dans la partie mes cours, si je me souviens bien.
À noter quand même chez Didier, il y a une option qui m'a chatouillé depuis le début. C'était tout en haut, on voit un petit réseau, une petite icône réseau, et puis un ordinateur. Et cette option synchronisée, mais qui n'est pas active pour le moment. Donc je sais pas ce que ça pourrait donner plus tard, mais c'est vrai qu'en termes de partage, moi j'aimerais bien qu'il y ait une synchronisation avec les versions numériques des élèves, par exemple. Ou du moins un espace en ligne commun, un peu comme avec le labo de langue de Didier. Mais là, c'était pareil, c'était pas une exportation directe. Il fallait d'abord exporter en PDF toutes les annotations sur son disque dur pour les réimporter ensuite dans le labo de langue.
Oui, ça serait vraiment bien, je pense, effectivement, que Didier crée un pont entre ces deux plateformes pour pouvoir importer directement avec le labo de langue, voire même que le labo de langue sache que tu es en train de donner cours à telle ou telle classe avec les élèves inscrits, et donc après tu es juste une option synchronisée ou export, et que le document soit envoyé directement à tous les élèves. Effectivement, ça serait l'idéal.
Ah bah oui, clairement, hein. C'est-à-dire que tu pourrais déjà mettre ton cours dans le labo de langue, il est disponible, tu le synchronises et tu le rends accessible aux élèves, et ça, ce serait absolument génial, quoi. Mais pour l'instant, toujours pas. Mais on va attendre, hein, parce que il y a une version 2 de leur labo de langue qui va sortir. On verra ce qu'elle propose. Si on en revient un petit peu à la valeur ajoutée du numérique et puis peut-être à ce qu'on peut en retirer, il y a une option qu'on a un petit peu passée sous silence, qui est l'enregistrement sonore. Je sais pas si c'est vraiment utilisable. Toi, avec TTBeat, t'as déjà utilisé des options d'enregistrement de son. Tout à l'heure, tu parlais de tes apprenants qui auraient pu, par exemple, faire le dialogue d'une vidéo où tu as coupé le son, ou faire un jeu de questions-réponses si tu supprimes un ou deux des trois participants. Est-ce que là, ça pourrait être utile de les enregistrer pour leur laisser après une trace de ce dialogue qu'ils ont fait sur la vidéo?
Ça serait vraiment utile de les enregistrer. Ces options sont prévues, hein. Par contre, je me demande, c'était ta première question, personnellement, avec le TBI, je n'ai jamais fait de test d'enregistrement dans un contexte, donc pendant la classe, au niveau de la qualité, ce que ça peut donner. Ça va certainement demander aussi d'avoir un micro de près, hein, parce que là, si on travaille avec des ordinateurs portables, il y a souvent un micro intégré. Bon, alors, il faut voir quelle qualité ça a. Si on a juste l'ordinateur du TBI, il faut avoir au moins un casque micro si il n'y a qu'une seule personne enregistrée. Si on a un dialogue à deux, trois personnes, dans des conditions de classe, il faudrait tester. Là, moi, je sais que de mon côté, je n'ai pas testé. Je ne sais pas pour toi.
Bah moi, ce que j'ai vu, c'est que c'était alors déjà c'était pas présent partout. Je l'ai pas trouvé chez Didier, cet enregistrement
Non.
sonore. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand par exemple chez Hachette, je clique sur le micro, j'ai une petite fenêtre qui apparaît et puis j'ai plus qu'à cliquer sur le métro pour enregistrer sur le micro pour enregistrer. Mais alors je sais pas quelle source il prend. C'est-à-dire que là, par exemple, sur mon ordinateur, j'ai le micro interne de l'ordinateur qui est disponible, mais j'ai aussi un micro USB que j'ai branché pour avec lequel j'enregistre actuellement. Je ne sais pas du tout quelle source il va enregistrer, et j'ai pas moyen de le paramétrer. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait exactement avec ça. Et de la même façon, enfin, c'est un fichier audio à part. Donc, dans le cadre de l'activité que tu proposais tout à l'heure, jamais on pourrait avoir la vidéo avec, à la place du son des comédiens, le son de mes apprenants. Ou si on fait question-réponse comme ça, j'aurais jamais un fichier qui va mixer les deux, quoi.
Ce qui aurait pourtant été tout l'intérêt de pouvoir enregistrer sur une activité dans ce genre.
Ouais, et puis même sur les activités de phonétique, hein, avoir un petit
Aussi,
spectre
bon.
qui peut aider, y a toutes ces choses-là qui peuvent aider, qui sont pas encore mises en avant sur ces offres TBI. Mais là aussi, hein, sur les logiciels consacrés au TBI, il n'y a pas de tels outils non plus, hein, il faut pas non plus trop critiquer le travail
Non, non, absolument pas.
des
Il y a déjà
éditeurs
un gros
ici.
travail de fait, mais
Et une belle
effectivement.
évolution, hein. Une belle évolution par rapport à ce qui se faisait avant, dans le sens où tu peux créer ton propre cours à partir des ressources du manuel. Ce que les profs faisaient déjà en découpant, en photocopiant et tout ça pour réagencer parfois sur certaines feuilles, là, c'est fait quand même de manière un peu plus professionnelle, c'est assez sympa. On va peut-être terminer ce comparatif par une impression générale, ce que toi tu retires de ces TBI, si tu les conseilles ou pas, et puis peut-être ce qu'on aimerait voir apparaître comme fonction.
Ah, beaucoup de choses. Oui, impression générale, c'est que, non, comme tu disais, je pense qu'il y a quand même un gros travail qui a été fait. Je m'en rends vraiment compte, moi aussi, avec ce petit accroc qu'on a eu avec Hachette. Donc, j'ai eu un autre manuel qui utilisait une autre plateforme, je pense, qui était antérieure, et pour le coup, pour laquelle j'aurais été beaucoup moins enthousiaste que ce que je viens de voir avec Alter Ego Plus. Donc, rien que de comparer les deux plateformes, il y a quand même de grosses évolutions. Donc, on peut aussi se dire que tous ces environnements vont évoluer. Ils ont besoin d'évoluer, je pense, au niveau de différentes fonctions qu'on a évoquées ensemble, différentes fonctions qu'on peut retrouver sur des sites internet, pas forcément en rapport avec l'éducation, mais effectivement d'enregistrement. Il y a beaucoup plus de possibilités, je pense, au niveau du numérique. Et il faudrait aller un petit peu plus loin que les outils classiques que l'on peut retrouver intégrés au TBI.
Ouais, de mon côté, moi je trouve que bon, les logiciels donc de TBI de ces éditeurs sont jolis, c'est beau, C'est plus facile à utiliser qu'avant. Il y a encore quelques fois des petits va-et-vient au départ. Il faut un petit temps quand même de prise en main, mais
De prise en main, oui, totalement.
ça reste correct pour l'instant, je trouve. Autre impression aussi générale qui est c'est facile de se balader avec son cours, notamment avec les formules sur clé. C'est très pratique du coup d'arriver sur n'importe quel ordinateur, hop, de lancer son cours et il n'y a pas de problème parce que parfois quand on va, je pense à des profs particuliers qui vont dans des entreprises où les ordinateurs sont bridés, où on ne peut pas installer ce qu'on veut sans avoir les droits administrateurs. C'est pratique d'avoir ça sur une clé USB, de pouvoir le lancer comme ça.
De manière
Donc
autonome,
ouais,
oui.
ça c'est quand même très pratique. Sur les fonctions que toi t'aimerais voir apparaître, t'as des petits souhaits à annoncer aux éditeurs en espérant qu'ils nous écoutent.
En espérant qu'ils nous écoutent, aux éditeurs. On va dire dans les fonctions un peu faciles, je dirais que ce dont on a parlé au niveau de ces activités interactives, bon, ça dépend comment on définit l'interactivité, mais appariement, la possibilité donc d'avoir les images, de pouvoir créer des points, ce qu'on appelle des points d'accroche. Donc, vu qu'on peut zoomer sur ces images, ça serait bien de pouvoir mettre des points d'accroche sur ces images qui permettent de faire apparaître, par exemple, le nom d'un objet en français et éventuellement de pouvoir associer également du son. Ça serait déjà un gros plus pour pouvoir travailler un peu plus les images. Et donc, comme on disait tout à l'heure, tout simplement de pouvoir, vu que les logiciels travaillent beaucoup, donc en ajoutant une couche à du contenu papier, qu'on nous laisse un peu plus accès à cette couche supplémentaire pour donc ajouter des choses dans le manuel en lui-même et en modifier certaines.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ajouterais une petite chose, mais alors là, je pense que ça, ce sera jamais ni pris en compte ni écouté, je pense. Mais j'aimerais, par exemple, que un éditeur me fasse payer même un abonnement par mois et qui me donne accès à toutes ses ressources. Et là, quand je construis mon cours, si je veux ajouter un exercice de grammaire, je peux aller le chercher dans un autre ouvrage de cet éditeur. Je parle même pas de faire quelque chose à la Netflix où là, il y aurait plusieurs éditeurs, tous inclus, on paye un abonnement global. Mais que je m'abonne à un tarif par mois. Et même, on peut imaginer cet abonnement pour les apprenants, hein, qui pourraient être inclus dans le frais d'inscription et qu'ils aient accès à toutes les ressources comme ça depuis leur tablette ou depuis leur ordinateur à la maison. Mais que nous, donc, on puisse avoir des ressources de plusieurs manuels, parce que parfois, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne quand on est prof. Il y a des activités d'un manuel qui nous plaisent, on les ajoute, on retravaille nos documents, on va chercher toujours des activités à droite, à gauche, et j'aimerais pouvoir le faire à partir de ces TBI. Et là, pour l'instant, à part scanner une page et puis l'ajouter comme image à mon cours, c'est pas tellement possible. Alors qu'on pourrait tout à fait imaginer un abonnement mensuel et puis avoir accès à toutes les ressources d'un éditeur, hein.
Oui, ça serait effectivement l'idéal. Ouais. Et comme tu le précises, on pourrait très bien rester, ne serait-ce qu'avec les contenus d'un même éditeur. On ne demande pas encore, je rajoute encore quand même, d'avoir différents éditeurs qui travaillent ensemble. Mais j'avoue que moi, en fait, tout ce qui est au niveau de la plateforme, donc cette surcouche qui est rajoutée sur les manuels, je me suis même demandé pourquoi est-ce que les éditeurs n'auraient-ils peut-être pas intérêt à développer une plateforme très très puissante ensemble et après faire la différence sur les contenus qu'ils proposent au niveau des manuels. C'est ce qui se passe actuellement de toute façon. Ils utilisent tous le format papier, ce que je sache. Et après, c'est la qualité intrinsèque fait partie en fait des contenus du manuel. Donc si les trois éditeurs, les quatre éditeurs, même qu'on va après avoir l'opinion de Philippe là-dessus, s'allier pour créer une plateforme qui soit à la fois utile aux professeurs, très rapide, agréable à utiliser. Est-ce que tout le monde n'aurait pas à y gagner?
Ouais, clairement. Et en plus, c'est déjà presque le cas parce que je crois savoir que pour Hachette et Didier, ils sont tous les deux passés par un fournisseur de services qui est KNE, je crois, pour développer leur offre TBI. Donc, ils auraient vraiment pu s'associer tous les deux et demander quelque chose de plus puissant plutôt que de chacun de leur côté dépenser dans un projet et au
Exactement, oui.
final se retrouver avec deux choses qui sont assez similaires, quoi.
Finalement, assez similaire, oui, totalement.
Ben voilà, on a fait un petit peu le tour de ces trois offres numériques pour TBI pour les éditeurs. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas à les laisser dans les notes de l'émission, dans la partie commentaires, et puis aussi à contacter Fred sur le blog Agito. Alors justement, Fred, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Où est-ce qu'on peut me retrouver sur Internet? Oh. J'ai envie de dire comme Jean la dernière fois, je ne me cache pas vraiment sur Internet. On peut me retrouver sur mon blog et sur la page du blog, dans la partie contact, mais même sur la première page, il y a des liens vers mon compte Twitter que tu avais déjà mis d'ailleurs pour demander des questions aux éditeurs. Je suis également présent, très présent sur Google+, mais je suis aussi sur le réseau bleu, comme je l'appelle, Facebook, parce qu'il y a tellement de nos confrères qui y sont, que ça serait dommage de se priver de tout ce qui s'y passe. Voilà.
Ben Fred, merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro parce que je me sentais pas d'attaque à faire le comparatif des trois tout seul. Donc merci beaucoup de m'avoir aidé pour toute la présentation, d'avoir préparé tout ce comparatif. Et ben j'espère à bientôt.
Ben oui, à bientôt. Merci à toi, hein. C'est très intéressant. J'espère que ça aura intéressé du monde et qu'on aura répondu à des questions.
J'espère aussi. Après ce comparatif, on passe à la présentation des outils TBI proposés par les éditions de la Maison des Langues avec Philippe Liria comme invité. Alors, pour présenter les outils numériques TBI des éditions de la Maison des Langues, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Liria, qui est éditeur de Pourquoi pas, entre autres, délégué pédagogique aussi et co-auteur de cahiers d'activités ronds-points et nouveaux ronds-points, par exemple, mais aussi les clés du nouveau DELF et en route pour le DELF Junior. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour Sébastien.
Alors merci d'avoir accepté cette invitation pour expliquer un petit peu ce que les éditions de la Maison des Langues proposent pour les outils TBI et peut-être numériques aussi. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par te demander quels sont les manuels qui sont disponibles en offre TBI à la Maison des Langues?
En fait, on va faire simple, c'est que l'ensemble du fonds de publication en manuel d'apprentissage du français est disponible en numérique. Absolument tout, que ce soit donc Zoom qui est notre titre donc pour les enfants, que ce soit Pourquoi pas ou Club Ado pour les adolescents, ou que ce soit donc pour les grands adolescents et adultes les titres des collections version originale et nouveaux ronds-points. Tous ces titres sont disponibles en numérique, ce qui veut dire donc disponibles pour les TNI et pour un usage plus vaste, je suppose qu'on va en parler, plus vaste du numérique en classe et hors classe.
Et ça inclut aussi les périphériques, cahiers d'activité, toutes ces choses-là.
Alors justement, si certaines personnes connaissent déjà notre matériel numérique, elles savent que ou elles pensent peut-être que il manque les périphériques. C'était vrai pour les anciennes versions. Le numérique a évolué très vite et nous avons en fait, par rapport aux premières versions numériques, nous avons créé depuis un petit peu plus d'un an maintenant, nous avons mis à jour tous les produits numériques qui étaient déjà numérisés et toutes les nouveautés sur un nouveau support numérique qui est systématiquement comprend le livre de l'élève, le cahier d'activité et le guide pédagogique. Et si, en fonction de la collection, il existe des extras, les extras également.
D'accord. Et donc, comment ça se passe si j'utilise, par exemple, le nouveau rond-point en classe et que on vient de m'installer à TBI, je veux utiliser donc les outils TBI ou TNI. Comment ça se passe? Quelles options vous avez choisies? Avec quel système c'est compatible? Est-ce qu'il faut installer quelque chose?
Alors, il y a absolument, on va dire, rien à installer de spécial. Tout dépend, par contre, d'où vous l'installez en soi. C'est-à-dire que parce que vous pouvez utiliser la clé USB. Il n'y a aucune installation requises. Hein. Ce sont des fichiers USB, ça c'est une des possibilités. Vous avez la version ensuite online et vous avez ensuite une version offline. Ce sont les trois supports que vous avez et en plus il y a aussi les versions donc online et offline pour tablette.
Et donc la version offline, c'est quelle est la différence avec la clé USB?
Disons que par rapport à la clé USB, la version offline est en fait tout simplement une version online utilisable sans que vous ayez une connexion nécessaire. Mais à partir du moment où vous vous connectez, cette version offline peut être mise à jour si des mises à jour existaient. D'accord. Alors que la clé USB, c'est un produit fermé. Vous l'achetez et vous ne pouvez pas le mettre à jour.
D'accord. Et donc ces clés USB, les versions offline et les versions online, sont compatibles avec tous les systèmes d'exploitation et tous les navigateurs.
Tout à fait. Tous les navigateurs, en tout cas les principaux navigateurs. Safari, Firefox, Chrome, etc. Tous sont compatibles aussi, ça j'insiste, notamment pour la clé USB, c'est compatible PC et Mac.
Alors, justement, avec cette clé, rien à installer, c'est quand tu dis que la clé est compatible Mac, PC, c'est la même clé alors, hein?
Oui, c'est la même clé, il suffit d'indiquer, en fait, il y a un moment... Quand on ouvre, on doit indiquer si on utilise un Mac ou si on utilise un PC, en fait.
D'accord, très bien.
Et on retrouve le point, soit le point .x ou le exécutable des PC ou pour Mac, même chose, en fait.
D'accord. Et ça veut dire que si je travaille sur ma clé sur un Mac à la maison et que je reviens en cours et que je branche sur un PC, je vais retrouver toutes les modifications que j'avais apportées.
Exactement, au niveau donc des annotations et tout ce qui aurait été sauvegardé en fait pour par rapport à la préparation du cours.
D'accord. Alors ça nous fait une bonne petite transition pour parler un petit peu de ce qu'on peut faire avec cet outil. Donc comme tu le disais, on a accès à toutes les ressources du manuel. Est-ce que je peux avoir plusieurs manuels? Si on imagine par exemple que j'ai des cours avec le nouveau rond-point et après avec un niveau supérieur, je vais utiliser le nouveau rond-point 2, c'est ça? Est-ce que je peux avoir comme ça toutes les ressources à disposition? Il faut que je change la clé, il faut que je me connecte à deux comptes différents.
Si c'est la clé USB, effectivement, ce sont des clés différentes. On n'a pas une clé collection.
Ok.
Ce sont des clés associées à un niveau de la collection. Par contre, s'il s'agit de travailler avec une version online, qui, à mon avis, est la version, on va dire un petit peu la version du futur, non, à travers une sorte de bibliothèque personnelle que va avoir donc le professeur. À travers cette bibliothèque, il va pouvoir, en fonction du matériel qu'il utilise, il va pouvoir donc avoir toute la collection s'il utilise toute la collection de pourquoi pas.
Donc, quand on a, par exemple, tu mentionnes pourquoi pas, si j'utilise pourquoi pas en version TNI, qu'est-ce que la version TNI m'apporte par rapport au manuel? Est-ce que je peux, par exemple, réagencer les ressources? Est-ce que je peux ajouter des ressources?
Par rapport au manuel, on va dire au manuel papier traditionnel, je pense qu'il faut, ça apporte beaucoup. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point il faut opposer ou dire si ça apporte plus ou moins. Je crois que ce sont des utilisations différentes liées à la pédagogie que l'on va mener aussi en classe. Si justement on utilise le manuel numérique pour le prof, mais pas seulement pour le prof, parce qu'on est en train de parler là pour le prof, mais il faut savoir que la demande augmente de plus en plus dans de nombreux pays pour que ce soit les élèves aussi qui utilisent le manuel numérique sur leur tablette, par exemple. on a une demande croissante quand même de nombreuses institutions qui s'intéressent à ça, la possibilité d'utiliser le manuel sur la tablette. Ce n'est pas négligeable. Voilà. Donc, oui. Donc, pour revenir, oui, peut-être quand même, donc, à TNI, même si je n'aime pas trop parler, en fait, de version TNI. Je crois qu'on en a parlé, mais en fait, maintenant, je crois qu'on conçoit un matériel numérique qui est plus en fonction justement de son utilisateur. Si c'est pour le professeur, donc ce sera entre autres compatible avec le TNI, ou si c'est le manuel numérique pour l'étudiant, puisqu'on a justement ces deux versions proposées. Mmh. Et je crois que c'est important déjà de faire cette première différence.
Ouais. Et en termes de conception de cours pour le prof, je sais moi par exemple que quand j'utilise un manuel, j'aime bien ajouter des documents, ajouter des exercices que je crée moi-même pour certains besoins, etc. Est-ce que c'est possible de le faire avec la version TNI justement ?
C'est tout à fait possible. Donc la version professeur est équipée. Déjà, elle contient absolument tout. Le matériel, c'est-à-dire que dans la version professeur ou enseignant, il y a également le guide pédagogique, mais en plus, il va avoir donc la barre à outils que l'on retrouve, que toutes les maisons d'édition proposent également, barre à outils pour le TNI, mais ce qui veut dire que l'on peut travailler sans avoir forcément un TNI, on peut travailler par simple projection à partir du vidéoprojecteur, puisque la barre d'outils est inclue dans le manuel numérique. Donc, ces outils-là permettent, entre autres, de personnaliser certains contenus, pas par contre de réagencer le livre. On ne va pas réagencer le livre, mais on va pouvoir ajouter, par exemple, des liens internes, se faire des points de repère ou des allers-retours entre telle ou telle page du livre, un petit peu comme des favoris, on va dire, et puis ensuite des liens externes, on est sur telle image où on fait référence, je ne sais pas moi, à tel personnage célèbre et il y a sa photo qui apparaît, et on peut personnaliser avec un lien direct et un simple clic qui vous envoie sur, si c'est un chanteur, et bien par exemple sur le clip disponible sur YouTube par exemple.
Et on peut ajouter nos propres fichiers, par exemple, si moi j'ai une vidéo ou un texte sur mon ordinateur et que je veux l'ajouter au cours.
Tout à fait, de la même façon que vous pouvez ajouter un lien vers l'extérieur virtuel, synthétique d'Internet, vous pouvez aussi le faire à partir de ce que vous avez dans votre ordinateur ou dans le réseau, si c'est en réseau. Ce qui peut permettre de répondre peut-être à cette idée de cette inquiétude sur est-ce que je peux travailler en réseau. C'est là où on peut peut-être mettre des ressources complémentaires en réseau. C'est-à-dire que le manuel directement, le travailler en réseau, non, mais des ressources, oui. En plus, vous avez un espace personnel qui vous permet de créer des diaporamas. Ou d'ajouter, vous avez une autre partie de l'espace personnel qui s'intitule mes dossiers, dans lequel vous pouvez donc ajouter des images, des documents n'importe quelle extension, .doc, etc., PDF, qui eux peuvent être mis en lien avec telle ou telle page du manuel. Dans une limite par rapport à l'espace personnel même de la clé USB, dans une limite de 10 mégas.
D'accord.
Ensuite, par rapport à ce que vous pouvez stocker sur l'espace personnel, si vous travaillez en ligne, ça va jusqu'à 600 mégas.
D'accord. Donc le stockage total, c'est 600 mégas, 10 mégas par fichier.
Ça, ouais, voilà, à peu près.
D'accord. Et voilà. Sur la clé, c'est les mêmes limitations ou
Non, sur la clé, non, sur la non, attention. Sur la clé, c'est 10 mégas.
Sur la clé, c'est 10
mégas. Sur la clé, c'est. En fait, il faut comprendre, et je pense que ce sera la tendance. On est passé de la cassette au floppy disk, du floppy disk au compact disk, du compact disk à la clé USB. Je pense que de plus en plus, nous travaillons avec des nuages, nous travaillons du numérique, et à mon avis, la clé USB que l'on produit encore, et si les enseignants veulent travailler avec la clé USB, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est même au niveau donc de l'ergonomie, c'est beaucoup plus pratique de travailler avec une version online qui est disponible offline. Si vous la téléchargez et que à n'importe quel moment vous pouvez réactualiser en vous mettant online. Enfin, je pense que c'est un confort de travail que la clé USB ne permet pas.
Alors, tu évoquais un peu les outils qu'on peut avoir pour une présentation, en disant on peut le faire effectivement sur un TNI, mais on peut le faire aussi avec un projecteur. Quels sont les outils qui sont présents quand je veux présenter un cours?
Tous les outils classiques que l'on va retrouver dans les barres à outils, donc le manuel numérique, c'est la fonction de stabilo. On peut ajouter un texte, personnaliser un texte. On peut évidemment surligner, entourer, faire des flèches quand on a un exercice d'appariement, et donc corriger si on demande aux élèves d'aller au tableau, donc corriger, ou si on veut leur demander de repérer des mots et tout ça en fonction de comment on organise la classe, en choisissant plus les couleurs qui nous intéressent pour qu'il y ait un groupe avec la couleur verte et un groupe avec la couleur rouge, par exemple, etc. Et ils vont au tableau en fonction de la couleur qu'ils ont. On va pouvoir, je le disais, parmi ces outils-là, on va pouvoir créer des liens. On va pouvoir aussi importer, exporter nos annotations. Toutes les annotations qu'on aura pu justement mettre. Évidemment, les caches sont présents, la loupe, la possibilité d'avoir des pages en favoris. Je dirais que c'est un petit peu tout ce que vous pouvez retrouver. Évidemment, tout ce qui est audio, et dans le message, je pense même plus la peine de le dire, mais au cas où certaines personnes ne connaîtraient pas encore le livre numérique, l'audio, et s'il y a une vidéo qui accompagne la méthode, c'est compris dans le manuel, donc il est utile d'aller chercher les pistes de son CD.
Mm-hmm. Et c'est pratique quand même.
C'est quand même très très pratique, très très pratique, tout à fait. Et comme je vous le disais, dans la version donc pour l'enseignant, le guide pédagogique est disponible, et donc ils ont, dans le cas par exemple de nouveaux ronds-points, pendant qu'ils sont en train de préparer leur cours, ils ont immédiatement accès aux unités en même temps qu'ils sont en train de feuilleter, donc pouvoir consulter. Ils ont aussi le corrigé des activités du cahier d'activité, les grilles d'évaluation du DELF qui sont disponibles, et les transcriptions.
D'accord. Alors tu parlais d'export du cours et des annotations. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails, comment tu l'exportes, sur quel format ça arrive, ce que peuvent en faire les apprenants ou les autres profs, si on veut laisser un suivi un peu de ce qu'on a fait pendant la période de cours?
Bien, en fait, si par exemple on veut faire une capture d'écran, mm-hmm. si un élève, ils ont travaillé sur une page et eu des différentes annotations, on va pouvoir faire donc cette capture d'écran et la garder ensuite donc sous forme de fichier donc dans notre ordinateur ou sur la plateforme avec laquelle on travaille.
Et le format, c'est en PDF ou c'est un format propriétaire?
Alors le format, c'est un format spécifique lié au programme. Je ne sais plus quelle extension il a. J'étais en train de chercher si je trouvais l'extension. Je ne peux pas vous la dire.
Mais si par exemple donc je prends des notes et que je veux les sur un texte et tout ça, et je veux le donner aux apprenants, je vais utiliser le format capture d'écran, c'est ça?
Voilà.
Et leur envoyer l'image. Ça,
voilà,
c'est possible.
Tout à fait.
Un petit point aussi sur l'interactivité des activités. Alors je l'ai encore vu nulle part, donc si vous ne le faites pas, ça se comprendra. Mais effectivement, à chaque fois que je vois des textes à trous, des tableaux à remplir, des cases à cocher, je suis obligé à chaque fois de ressortir l'outil texte pour compléter mes textes. Pareil pour faire des croix. Est-ce que là, il y a des activités interactives au sens interaction entre l'homme et la machine, quoi?
Pas encore. On m'a promis certaines choses. Je veux les voir.
Ouais.
Je veux les voir. Je pense qu'on les verra. On les verra très bientôt. C'est vrai, surtout quand le cahier d'activité est disponible, surtout quand on travaille avec la tablette, je pense qu'il va falloir absolument que, et on en est tous conscients, je pense que mes confrères de la concurrence aussi, en tout cas nous, on en est tout à fait conscients et on veut développer cet aspect-là, qui reste encore limité. C'est-à-dire que nous, je pense qu'on a dépassé le stade de la simple PDFisation des livres. On va plus loin. C'était des critiques qui étaient encore très fortes il y a, je dirais, il y a encore 2 ans.
Ah oui, oui.
Je crois que il y a une amélioration surtout dans la disponibilité aussi des ouvrages. Le livre numérique était quand même encore quelque chose d'assez lourd à manier. Maintenant, vous voyez, on a ces versions donc en ligne relativement souples à avoir, complètes, avec une mise à jour. Là-dessus, on a fait beaucoup d'efforts. Il y a encore des choses à améliorer et certainement des choses dont on ne parle même pas aujourd'hui parce qu'on n'en a aucune idée et qui vont débarquer d'ici 1 ou 2 ans.
Ouais, alors justement, puisque tu évoques les tablettes, les applications, est-ce qu'il y a une compatibilité entre l'outil numérique pour Tableau et les tablettes? C'est-à-dire, si par exemple, c'est quelque chose, moi, qui me fait rêver, mais je prends des notes sur un texte sur le TNI et ces notes se retrouvent sur l'application tablette de mes apprenants. C'est possible, ça?
Non. J'imagine. Techniquement, sincèrement, je ne sais pas si c'est possible. Pour le moment, dans l'offre que nous avons, nous, ça fait partie des outils développés, mais l'idée est intéressante.
Ouais, ouais.
Et l'idée est intéressante. Pour le moment, ce sont deux manuels différents.
Ce qui serait pas mal, moi aussi, parce que ça me paraît assez compliqué techniquement, mais puisqu'on a une clé USB, par exemple, pour les profs, ce serait pas mal qu'il y en ait une pour élèves, et à la fin du cours, hop, ils pourraient la synchroniser avec les notes que nous, on a pris en cours au tableau, par exemple.
Mm-hmm. Donc on pourrait faire une sorte Evernote entre la version numérique du professeur et la version numérique de l'élève, lui sur sa tablette et le prof avec la version pour son smartboard. Mm-hmm. Ce serait à mon avis, c'est envisageable. Sincèrement,
ça, c'est plus faisable, oui. Mm-hmm.
Je ne sais pas, mais puisqu'on le voit, on voit qu'à travers certaines applications et logiciels que nous avons sur nos ordinateurs et applications que nous avons sur nos tablettes, on voit que c'est possible. Je dirais, a priori, pourquoi pas.
D'accord.
D'ailleurs, j'en prends note.
une dernière question, un petit peu sur l'ergonomie de l'outil. Est-ce que c'est le même outil pour tous les manuels? Et de cette façon, comme ça, quand je suis prof, je n'ai pas à réapprendre à utiliser ça.
Tout à fait. À moins que certains professeurs soient justement avec les toutes premières versions que nous avons faite de livres numériques. Et donc à ce moment-là, évidemment, s'il venait à disposer d'un des manuels en version actuelle, il se trouverait avec deux supports différents, puisque nous avons changé en plus de fournisseur. Donc ce serait deux supports différents. Mais tout professeur qui déciderait de travailler avec nos méthodes pour enfants, pour ados ou pour adultes, va retrouver exactement le même support, le même entourage, le même environnement pour pouvoir travailler avec ses manuels.
D'accord.
Ce qui est quand même un avantage. Je comprends le professeur, le pauvre, qui se trouverait avec trois environnements différents en fonction de son public.
Oui, puis peut-être même plus, parce que parfois avec le TBI, il faut qu'ils apprennent à utiliser le logiciel propriétaire du TBI ou un logiciel open source comme Sankore, plus après, paf, les autres outils des manuels.
L'avantage, c'est que ces manuels sont complètement compatibles, en fait. Il faut savoir en plus, donc, mis à part ce que je pense qu'on n'a pas dit, mis à part ce qui existe quand même au niveau du matériel numérique direct, il faut savoir aussi que le professeur et l'élève ont accès en ligne à toute une bibliothèque virtuelle où il y a une somme de documents complémentaires important, que ce soit pour travailler avec nos activités de web 2.0, de nouveaux ronds-points ou de version originale, ou que ce soit avec d'autres méthodes, comme pourquoi pas, où il y a des fichiers disponibles dans l'espace virtuel que nous avons récemment inauguré.
Ah oui, ça c'est intéressant. Donc effectivement, c'est des ressources supplémentaires, des activités supplémentaires qui voilà. vont s'intégrer au manuel. Ouais, je ne sais pas si d'autres le font, ça, chez les concurrents.
Sincèrement, je pense que c'est un plus. Alors il y a des activités qui sont, on va dire, peut-être un petit peu plus anciennes et qu'on avait à droite à gauche sur notre site internet que l'on avait créé à l'époque où on diffusait la minute FLE. Mm-hmm. Vous avez certainement connu.
Ouais, ouais.
Et puis des choses plus nouvelles. Donc on a plutôt que d'avoir tout ce matériel épars un petit peu à droite à gauche, le regrouper, plus créer du matériel plus récent ou nouveau, et donc mettre l'ensemble dans cet espace virtuel d'édition Maison des Langues.
D'accord.
Et qui est gratuit, il suffit de s'inscrire, et à partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez y avoir accès.
D'accord. Philippe, merci beaucoup pour cet entretien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'aller sur www.emdl.fr et à partir de là, vous trouverez toute l'information, évidemment, de nos titres, un descriptif très complet des différents supports disponibles donc pour les manuels numériques, que ce soit les versions clé USB, manuels numériques online, offline, tablette, et évidemment l'ensemble de notre offre, ainsi que l'espace virtuel dont je viens de vous parler.
D'accord, merci beaucoup Philippe.
Je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt.
Et on passe maintenant à la rubrique Fourre-tout. Pour commencer cette rubrique Fourre-tout, quelque chose qui n'a pas trop de rapport avec le français langue étrangère, mais c'est vraiment un site coup de cœur sur lequel je suis tombé. Alors, ça s'appelle cartable.fr. Ça a été fondé par deux anciens étudiants diplômés de HEC. Il s'agit de Sarah Besnainou et de Julien Cohen-Solal. Alors, tous les deux ont réuni une cinquantaine de personnes, des graphistes, des spécialistes de contenu, etc., pour créer ce site cartable avec un K.fr qui reprend en fait tous les programmes de l'éducation nationale de la sixième au collège, donc à la terminale. Et pour les premières et terminales, vous avez bien sûr les spécialisations littéraires, économiques et sociales et scientifiques. Quand vous arrivez sur le site, vous choisissez un niveau, vous pouvez vous inscrire évidemment, vous choisissez un niveau et vous allez retrouver toutes les matières qui suivent les programmes de l'éducation nationale. Donc vous allez retrouver mathématiques, français, histoire, géographie, physique, chimie, SVT, etc., anglais, espagnol, allemand. Quand vous choisissez une matière, vous avez, là je choisis l'anglais par exemple, vous avez accès au chapitre avec les différents points grammaticaux qui sont évoqués, la méthodologie, pour qu'on puisse vous expliquer à chaque fois comment on peut progresser. Alors il y a là, par exemple, pour l'anglais, il y a rédiger un essai, traduire un texte, répondre à des questions portant sur un texte. Et puis on vous donne tout un tas de conseils, des étapes pour suivre, et puis c'est illustré par un exemple. D'accord ? Vous pouvez aussi donc accéder à des ressources, donc vous avez les chapitres, la méthodologie et les ressources. Là, vous avez une liste de verbes irréguliers, des tableaux de conjugaison. Sur la liste de verbes irréguliers, c'est assez classique, on retrouve la base verbale, le prétérite, le participe passé et la traduction. Si on revient au chapitre et qu'on choisit un chapitre, vous allez avoir toute la leçon et puis aussi des exercices. Alors ça va un petit peu plus loin parce que vous pouvez vous organiser et vous créer un classeur avec les documents pour pouvoir réviser un petit peu plus tard. Et vous avez aussi tout un tas d'outils qui sont sur la droite pour vous aider à naviguer dans le chapitre qui est vu. Voilà, donc c'est une très belle initiative, très, très fonctionnelle et bien sûr qui fonctionne cette fois sur absolument tous les terminaux, donc que ce soit vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléphones, vous pouvez accéder à Cartable depuis tous ces terminaux, donc c'est plutôt louable. Et c'est un bel effort de programmation parce que franchement, c'est fluide, c'est joli, c'est clair et les contenus suivent les recommandations de l'éducation nationale. On continue avec un site découvert grâce à T'enseignes-tu. Alors, le site s'appelle Verbe français au sens multiple et donc son auteur a écrit un article, donc son auteur c'est Anne-Sophie Godet, elle a écrit un article sur T'enseignes-tu, dont vous pourrez retrouver les références dans les notes de l'émission et sur le blog, bien sûr. Alors, ce site présente donc, comme il le dit, des verbes français au sens multiple, mais vous avez tout un tas de ressources. Donc vous avez des posters, des leçons à télécharger, des jeux aussi d'illustration et des fiches d'exercice. En fait, l'auteur ici s'intéresse à tous ces verbes qui peuvent avoir plein de sens différents. Donc il y a quelques exemples, arriver par exemple, avec le sens géographique et puis le sens de parvenir à faire quelque chose, hein, comme je suis arrivé à faire un Rubik's Cube. Elle a comme ça une longue série de verbes et il y a aussi une application qui reprend 20 verbes. Alors quand vous regardez le matériel à télécharger, vous avez des posters donc qui sont de très belles illustrations avec les verbes et les expressions dans lesquelles le verbe est utilisé et puis en même temps une petite image pour illustrer l'expression. Vous pouvez aussi télécharger des leçons complètes. Donc là, c'est directement un fichier PDF et puis vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Même chose, ce sont des expressions illustrées. Et puis, vous avez la traduction à chaque fois et un petit résumé d'autres expressions qui peuvent être utilisées avec le même verbe. Là, j'ai sous les yeux, par exemple, la fiche « Arriver » avec « J'arrive à jongler »,« Tu arrives à destination »,« Le printemps arrive »,« Nous arrivons au sommet »,« Vous arrivez à faire la roue », ces colis arrivent d'Espagne et puis il y a d'autres expressions qui sont arrivées par le train, le grand jour est arrivé, etc. etc. Là aussi les fiches sont très très belles et agréables à utiliser. Pour ce qui est des jeux, même chose, vous pouvez tout télécharger, vous retrouvez les illustrations mais cette fois sans le texte. L'auteur donne ici quelques pistes pour utiliser le jeu, donc vous avez des planches de 6 cartes à chaque fois à télécharger. Vous pouvez, comme elle le dit, mélanger les jeux de 2 ou 3 verbes et puis demander aux élèves de retrouver avec l'illustration le sens des expressions ou les verbes attribués. Vous pouvez leur demander de restituer des phrases. Vous pouvez aussi jouer à l'intrus. Donc là, il s'agit de mélanger le jeu de 6 cartes d'un verbe et une carte provenant d'un autre verbe et puis de demander de retrouver l'intrus. Et puis enfin, utiliser ça à l'oral. En laissant les élèves s'exprimer librement sur les illustrations ou simplement à partir d'une illustration d'inventer la suite ou de ce qui s'est passé avant, etc. Donc les utiliser pour raconter des histoires. Dernière rubrique, télécharger les fiches exercices. Là aussi, ce sont des fichiers PDF classés par verbe, mais ce sont des fiches à personnaliser. Donc vous retrouvez les illustrations pour chaque verbe et puis vous avez un espace blanc pour la consigne et puis des petites lignes qui permettent à vos apprenants de prendre des notes. Donc là, un exemple de consigne qu'elle donne sur le site, c'est écrire une phrase au présent avec le verbe arriver, changer de sujet à chaque phrase, ajouter des compléments de lieu, etc. Donc vous pouvez ensuite librement utiliser ces fiches. L'illustration va guider un petit peu le sens du verbe qu'il va falloir utiliser dans les expressions et puis vous leur demandez d'écrire un peu ce que vous voulez. Donc voilà, c'est très bien fait ce site. J'ai pas pu tester l'application 20 verbes qui est disponible sur l'iTunes Store alors au prix de 2,99€. D'après ce que j'ai pu en voir, mais je ne l'ai pas testé, ça reprend le contenu du site avec cette fois des activités un peu plus interactives où l'élève est seul face à l'iPad et où il doit associer du texte à des images, remettre des phrases dans l'ordre, etc., etc. Vous retrouverez les liens et les références dans les notes de l'émission, bien sûr, et sur le blog ardufleu.net. Je continue avec un blog qu'on connaît bien, c'est le blog Insuffleux dont j'avais pas parlé depuis un petit moment, à tort, hein, avec un dossier sur la lettre de motivation. Alors la lettre de motivation, on a tous déjà vu des activités qui permettaient de la faire, mais là dans son blog, Jean-Michel nous met plein de ressources à travailler. Donc il y a des fiches pour travailler évidemment la mise en page, le registre de langue, les informations à donner, le ton, tout ça bien sûr téléchargeable à chaque fois au format PDF déjà prêt à l'emploi, donc super travail. Ça va même un petit peu plus loin puisque on a un reportage qu'on peut exploiter sur le monde du travail en France et une planche de BD humoristique qu'on peut aussi travailler. Donc plein de liens, plein de documents pour travailler la lettre de motivation. Un gros boulot. Merci beaucoup Jean-Michel pour tout ce travail fait sur ton blog et bonne continuation à toi. Là aussi, hein, toutes les références seront sur le blog et dans les notes de l'émission. On continue avec un site belge cette fois qui s'appelle Etiglis Teacher. Alors ce site nous conseille 100 applications pour tablette, téléphone, que ce soit Android ou iOS, réparties en 16 domaines différents avec des applications incontournables pour la productivité, pour la production multimédia, des applications éducatives transversales, du ludo éducatif, mathématiques, français, langue, l'éveil à la géographie, aux sciences, à l'économie, à l'art, à l'éducation physique et sportive, et puis des applications pour les professeurs, des utilitaires et encore d'autres choses. Donc dans ces applications, il y aura sûrement des choses que vous connaissez déjà, comme Dropbox, SugarSync, Evernote, que j'utilise beaucoup, mais aussi d'autres choses que je connais moins, comme Jota Text Editor. À chaque fois, on vous propose des applications soit payantes, soit gratuites, disponibles sur Android ou sur iOS. De cette façon, vous pourrez découvrir et choisir les apps qui vont aller avec votre projet, qu'il soit sur téléphone ou sur tablette, et puis avoir une bonne idée comme ça de ce que vous pouvez faire aussi, découvrir d'autres fonctionnalités que vous pouvez avoir avec vos appareils mobiles et avec vos apprenants forcément. Donc voilà, 100 applications à découvrir sur ce site. Toutes les références seront bien sûr dans les notes de l'émission et sur le blog. Et on termine cette rubrique fourre-tout avec le site Les Experts, sur lesexpertsfleu.com, avec la présentation du jeu Anabi d'Antoine Boza, édité chez Cocktail Game, je pense. Alors ce jeu est un jeu collaboratif qui est un petit peu étrange, puisque quand vous tenez vos cartes, vous ne voyez pas vos cartes, mais vous voyez celles des autres joueurs. C'est un jeu collaboratif dans lequel il faut faire des feux d'artifice. Et en fait, donc vous ne connaissez pas votre jeu, mais vous pouvez indiquer aux autres quel jeu ils ont dans la main. Donc ça peut être utile, c'est un jeu où on peut parler un petit peu. Alors ici, Eva, qui nous fait cet article, nous propose différentes pistes pour utiliser ce jeu qui est un petit peu étrange au départ, mais très amusant et très facile à prendre en main. Elle nous le propose comme brise-glace, comme moment de détente, pour les débutants aussi, parce qu'effectivement, ce sont des actes de parole assez simples, donc ça peut toujours être utile pour les encourager et montrer qu'ils peuvent faire des choses en français. Et puis, juste pour commencer à une grande tâche, pour observer un petit peu les comportements, puisque comme c'est un jeu collaboratif, ça peut être intéressant de voir comment les apprenants se comportent quand ils doivent collaborer. Elle le propose aussi d'ailleurs comme moment de détente après un test, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour ce numéro 12 des Arts du Fleu. On se retrouve bientôt pour un numéro 13 avec Gapfleu qui viendra... avec Gabriel du blog Gapfleu qui viendra nous parler de compréhension orale et des activités qu'on peut faire autour de la compréhension orale. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir. Alors, de plein de manières, vous pouvez faire comme Kelly et mettre des étoiles sur iTunes, un petit commentaire. Vous pouvez laisser des commentaires sur le site. Vous pouvez aussi aller sur Podcast France pour mettre des étoiles, c'est aussi possible. Vous pouvez bien sûr laisser des commentaires sur Twitter, sur Facebook, sur la page Google+, sur Google+ aussi, dans la communauté des Arts du Fleu et puis un petit peu partout sur ce réseau que j'aime de plus en plus. Vous pouvez bien sûr faire un don si vous le souhaitez, de 1 ou 2 euros. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous soutenir en faisant un reportage à ExpoLang ou si vous le souhaitez dans toutes les formations, tous les événements auxquels vous assistez, vous pouvez prendre un petit micro et puis raconter votre expérience et je me ferai un plaisir de le diffuser. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus à nous écouter et bonne nouvelle, de plus en plus à télécharger. Ça veut dire que vous commencez à bien comprendre le concept de podcast et pas seulement écouter sur le site, mais aussi à télécharger, à vous abonner via iTunes ou d'autres applications. Je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cours !